Eh bien, ça fait plaisir de vous revoir. C'est chouette de vous voir. Bon, ça a déjà été dit plein de fois, mais je vais le répéter. Demain, c'est la rentrée. Quel enthousiasme! Demain, c'est la rentrée. D'accord. OK. Bon, j'espère que vous avez passé un bon été. J'aimerais savoir qui, parmi vous, va démarrer demain quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle école. On entre au collège, on entre au lycée, à la fac, on commence un nouveau boulot. Alors, si vous avez commencé il y a une semaine, ça marche aussi. Qui entre dans une nouvelle phase là ? Par ici. C'est tout ? C'est pas possible. Ah, vous n'êtes pas si nombreux que ça en vrai. Ah, au fond encore. Très bien. On se pose plein de questions quand on entre dans une nouvelle phase. Avec qui est-ce que je vais être ? Est-ce que l'ambiance va être sympa ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais trouver ma place ? Alors en vrai, après l'été où tout fonctionne un peu à ralenti, on a tous nos rentrées, même si on n'entre pas forcément dans une nouvelle phase, dans quelque chose de complètement nouveau. On revient des vacances et on reprend le travail, les rendez-vous médicaux reviennent s'insérer dans les agendas, etc. Et donc on a tous, je crois, en cette veille de rentrée, une question sur demain. De quoi demain sera-t-il fait ? De quoi cette nouvelle année scolaire sera-t-elle faite ? Et parfois on cherche à anticiper un peu, et on a raison, il faut prévoir, il faut organiser. Souvent c'est la meilleure manière de ne pas se retrouver dans des difficultés qu'on aurait parfaitement pu éviter si on avait un petit peu réfléchi en amont. Mais d'autres fois, et en particulier peut-être quand on rentre vraiment dans des phases nouvelles, on pousse le bouchon plus loin que ça. On veut essayer d'obtenir aujourd'hui la garantie que demain ira bien. On veut de la sécurité, et cette sécurité, elle devient un objectif de vie. Donc on œuvre non seulement pour que le jour d'aujourd'hui se passe bien, mais aussi pour que le mois, l'année, et même pourquoi pas notre vie entière se passe bien, parce qu'on anticipe les problèmes, et donc on cherche à sécuriser, à blinder, pour être sûr que ça ira bien. Et ça, évidemment, ça génère pas mal de stress. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous, mais moi, ça me stresse pas mal d'anticiper comme ça, voire de l'angoisse, parce que pour être sûr que tout se passe bien à l'avenir, que tout se passe bien dans notre vie, il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Il faut avoir des bonnes notes. C'est important, parce que les bonnes notes vont nous permettre d'avoir un bon diplôme, et un bon diplôme va nous donner, en théorie, un bon boulot. Et puis une fois qu'on a un bon boulot, on se dit qu'on serait quand même un peu plus confortable, un peu plus sûr du lendemain si on avait un meilleur salaire, parce qu'un meilleur salaire va nous garantir une bonne épargne, et avec une bonne épargne, on va avoir une belle maison, et dans une belle maison, ça y est, on est à l'abri. Ou pas. Il n'y a pas le son. Hop là. On va réessayer. Merci. Voilà, ça c'était lundi dernier, quelque part entre Narbonne et Toulouse, dans le petit village de Poma, dans l'Aude. Il y a 300 maisons sur les 500 du village qui ont été endommagées et parfois, même comme ici, complètement détruites par une tornade. Alors je vous ai fait grâce des images les plus dures pour ne pas perturber les esprits les plus impressionnables. Et du coup, je vois ça et je me dis, en fait, il ne faut pas une maison, il en faut deux. C'est plus sûr. Il faut une deuxième maison pour sécuriser tout ça. Et donc ce qu'on voit finalement, c'est que cette quête de la sécurité, elle est insatiable. C'est une histoire sans fin. Alors en ce jour où on se demande peut-être de quoi demain sera fait, on va parler de cette quête éperdue et du remède étonnant, je trouve, que Jésus lui oppose. Pour ça, nous irons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Je lirai les versets 24 à 34, ce que je vais faire d'ailleurs maintenant. Matthieu 6, versets 24 à 34. « Voilà ce qu'on lit dans ces versets. Personne ne peut être esclave de deux maîtres. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans les granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et pourtant je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou bien « de quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette parole. C'est par elle que tu veux nous rejoindre ce matin, en cette veille de rentrée, et je te prie qu'il en soit ainsi. Nous en appelons à ton Esprit Saint, Seigneur, pour comprendre cette parole avec notre cœur et pour qu'elle nous mette en marche. Amen. Verset 25, ne vous inquiétez pas. Verset 27, qui de vous peut par ses inquiétudes? Verset 28, pourquoi vous inquiétez? Verset 31, ne vous inquiétez donc pas. Verset 34, ne vous inquiétez pas. Donc le thème de ce texte, je crois, est assez clair. C'est la question de l'inquiétude. C'est un passage qui s'inscrit dans le contexte plus large du sermon sur la montagne qui s'étend du chapitre 5 au chapitre 7. Et le sermon sur la montagne, c'est un enseignement fleuve de Jésus sur la vie de disciple. On en a parlé ce matin, le disciple, l'élève. Il installe ici ce que sera la contre-culture chrétienne dans un monde qui vit selon des valeurs qui sont bien différentes de celles du royaume de Dieu. Le chapitre 6, qui est au cœur donc de cette section, peut se diviser en deux grandes parties. D'abord, Jésus va parler de la piété du chrétien, la discrétion dans l'aumône, la manière de prier, la manière de jeûner. Et ensuite, à partir du verset 19, il va parler du projet de vie du disciple. Et là, il va insister assez vivement sur un sujet bien particulier qui est celui de notre rapport à l'argent. Il dit au verset 19, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors c'est évidemment une sage recommandation, mais dans la bouche de Jésus, c'est un peu plus que ça. Notre texte sur l'inquiétude, il est chapeauté par cette affirmation, peut-être un peu étonnante, « Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon » ou dans d'autres traductions, « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent ». C'est-à-dire que notre rapport à l'argent, Jésus l'élève au rang d'idole possible en tout cas. Mammon, c'est l'argent personnifié. Pour le dire autrement, l'argent, c'est un outil qui, quand il est mal abordé, est investi par les forces du mal et nous place sous la domination d'un démon. Pour le dire clairement, c'est ça. De maître de l'argent, on devient son esclave, l'esclave d'une puissance qui vient donc contrôler nos vies. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cet attrait de l'argent? Parce qu'on l'a, je pense qu'on peut le dire. Ben c'est ce qu'on va voir, et on va voir que ça touche à quelque chose de plus profond, en réalité, que la question d'être riche ou de ne pas être riche. Il faut prendre bonne note de ce que Jésus nous dit ici. Quand il dit au verset 24 « Personne ne peut être esclave de deux maîtres » en opposant Dieu et Mammon, et qu'il poursuit au verset 25 en disant « C'est pourquoi je vous dis » Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtu. En fait, il pose une question qui est assez claire, il me semble, et cette question, c'est entre les mains de qui nous allons confier notre sécurité. C'est de ça qu'il s'agit, me semble-t-il, entre les mains de qui nous allons confier notre sécurité. Et il ne parle pas de choses superficielles, là. Il parle de manger et de boire, c'est vital. Il parle de protéger notre corps par le vêtement, on peut aussi penser par un abri, si on extrapole, ça aussi, c'est vital. Et donc, évidemment, ce sont des choses qui nous soucient. On est en souci pour ça, on s'en préoccupe, et c'est légitime. Maintenant, le monde qui nous entoure apporte une réponse à ce besoin de sécurité. Et sa réponse, et je crois que c'est pour ça que Jésus met ça en avant, c'est l'argent. La proposition du monde, c'est que nous fassions allégeance à Mammon. C'est en lui que se trouve ta sécurité, dit le monde. C'est la raison pour laquelle il faut avoir des bonnes notes, un bon diplôme, un bon travail, un bon salaire, une belle épargne et finalement une belle maison, voire deux, voire trois. Parce que l'argent, c'est notre principal outil ici-bas pour sécuriser l'avenir. Avec de l'argent, je peux manger demain. Avec de l'argent, je peux me loger, je peux faire face à une panne, je peux épargner pour mes études, pour mes enfants, pour ma retraite. Et il y a évidemment quelque chose de juste là-dedans. Et c'est bien ça qui est délicat, je trouve, dans notre rapport à l'argent. On doit être de bons gestionnaires des biens que Dieu nous confie. Il est de notre responsabilité chrétienne de prendre soin de nos proches. Et tout ça requiert un minimum, effectivement, d'anticipation, de précaution. Jésus ne lance pas ici, il me semble, un appel à la nonchalance, en attendant que la nourriture nous tombe dans le bec sans quitter le nid. Il donne d'ailleurs l'exemple des oiseaux, ce qui me semble être un bon exemple, déjà parce que c'est l'exemple de Jésus, je ne veux pas dire que c'est un mauvais exemple, mais aussi parce que même les oiseaux qui ne sèment pas et ne moissonnent pas se bougent pour aller chercher de quoi manger. Le problème, ce n'est pas de chercher à subvenir à ses besoins, le problème vient quand je place ma confiance dans l'argent pour me garantir que tout ira bien demain. Le problème, c'est lorsque je retiens la manne que Dieu met dans ma main et que je l'accumule sans mesure par peur du lendemain. Parce que si je suis dans cette disposition d'esprit, alors je ne vais plus vivre pour Dieu et pour son royaume, mais je vais vivre pour Mammon et pour cette illusion de sécurité qu'il m'apporte. L'argent va devenir un maître que je dois servir. Il va guider mes décisions et mes actions. Et souvent, il faut bien l'admettre, il va les guider même bien au-delà de mes besoins primaires de nourriture et de vêtements dont parle Jésus. En Luc 12, on peut lire cette histoire d'un homme riche qui a construit des greniers et qui se dit « Voilà, ça y est, c'est bon, c'est bien. Tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, tu es tranquille, tu es serein. » Et l'ironie de l'histoire, nous dit Jésus, c'est qu'il meurt la nuit suivante. Voilà donc un homme qui s'est beaucoup inquiété pour finalement peu de choses. Jésus nous dit que ça, en réalité, ça ne va pas nous rendre heureux. Alors il déplace notre regard vers Dieu et ce qu'il dit est, ou plutôt n'est pas, à mon avis, franchement de nature à rassurer nos cœurs inquiets. Regardez les oiseaux du ciel, observez les lys des champs, ils ne se soucient de rien et Dieu prend soin d'eux. Mais attention, parce que Jésus dit aussi, au verset 34, « À chaque jour suffit sa peine. » Donc il y a une peine pour chaque jour. Il ne faut pas éviter la peine du travail pour assurer sa subsistance. Paul dira même que celui qui ne travaille pas, eh bien, qu'il ne mange pas non plus. Ce qui est à éviter, c'est la peine pour le lendemain, dont on ne sait pas de quoi il sera fait en vrai. Vous connaissez peut-être cette phrase qui est attribuée tantôt à Mark Twain, tantôt à Montaigne, qui dit « J'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie, la plupart ne se sont jamais produits. » Quand l'inquiétude du lendemain règne dans nos vies, Mammon, souvent, frappe à la porte. La quête de sécurité frappe à la porte. Alors je parle de Mammon parce que c'est l'accent sur lequel, enfin c'est là où Jésus porte l'accent, je dirais, mais évidemment, cette quête de sécurité, on peut la rechercher dans tout un tas d'autres choses. Cette inquiétude du lendemain par rapport ça va être qui mes profs, ça va être comment ça va se passer, est-ce que je vais avoir des amis, etc. Mais voilà, l'argent, c'est quelque chose de tout à fait particulier, c'est pour ça que Jésus en parle. Aucune inquiétude d'aujourd'hui ne peut pourtant nous garantir demain une bonne classe, de bons profs, de bonnes notes, de bons amis, un bon salaire, etc. Aucune inquiétude ne peut nous garantir une année sans difficulté. Il y a évidemment des choses qu'on peut anticiper. On sait qu'on a besoin d'un sac, d'affaires scolaires, etc., d'un peu de matériel pour commencer l'année. Mais pour à peu près tout le reste, toutes ces choses qu'au fond on ne maîtrise pas, eh bien, le verset 32 nous donne une clé à saisir qui est la confiance. Ne vous inquiétez pas, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. Ce qui nous est proposé, ce n'est pas une garantie que tout ira bien. Ce qui nous est proposé, c'est la confiance en Dieu, quel que soit ce qu'on imagine des circonstances du lendemain, parce que à chaque jour suffit sa peine. L'oiseau n'a pas de grenier, la fleur n'a pas d'épargne, et Dieu nous dit que nous valons beaucoup plus qu'eux. Et le cadeau de la confiance, le voici. Lorsque je n'ai plus besoin de consacrer toute mon existence à sécuriser demain, eh bien je peux consacrer mon aujourd'hui à plus grand, à plus beau, à plus exaltant, c'est-à-dire à ma vocation première qui est de chercher le royaume de Dieu. Et chercher le royaume de Dieu, c'est en substance vivre Matthieu 5 à 7. Et vous verrez qu'il y a du boulot, il faut se préoccuper de vivre les béatitudes, me préoccuper d'être sel de la terre et lumière du monde, me préoccuper de mettre en pratique les commandements du Christ, de vivre le ministère de la réconciliation, d'être fidèle à la parole donnée, de faire preuve d'une générosité extravagante, ce qui est une autre manière d'exprimer la grâce de Dieu au monde. Or, je ne peux pas faire preuve de cette générosité si je suis accroché à mes biens pour sécuriser le lendemain. D'aimer mes ennemis, rien que ça, de prier et de jeûner dans l'attitude humble de ma relation à Dieu, de poser un regard de grâce sur le monde, de partager la bonne nouvelle à ceux qui ont des oreilles pour la recevoir, de marcher par l'esprit pour voir naître en moi, en moi-même, les fruits de l'esprit, de travailler à la cohérence entre mes paroles et mes actes. Bref, c'est résumé tout ça avec « je dois me préoccuper de bâtir ma maison sur le roc de la parole de Dieu mise en pratique ». Et il nous est dit ici, Matthieu 7, 25, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. » Et vous voyez que notre assurance ici n'est pas une assurance exactement matérielle. Et c'est en cela, probablement, qu'elle est assez inconfortable, parce que nous voulons, nous, une sécurité matérielle. Mais la sécurité fondamentale que nous propose Jésus touche à quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus pérenne, qui est notre sécurité spirituelle, celle qu'aucun événement extérieur ne peut nous enlever, pas même la tourmente de la maladie, par exemple, ou de la mort à venir. Parce que la question n'est pas de sauver notre peau à tout prix, la question est de savoir qui est notre maître, qui est notre Seigneur et Sauveur. Avec qui est-ce qu'on va traverser les moments difficiles? Qui est notre berger à l'heure où nous devons traverser la vallée de l'ombre de la mort? En vérité, la vérité plutôt, c'est que Mammon ne peut pas tout sécuriser. N'importe quel malade, je crois, pourra vous le confirmer, il y a un moment où il nous lâche la main parce que la vie et la mort ne sont pas dans sa main. Et il nous laisse là partir seuls dans les affres de l'angoisse et de la mort à venir. Il y a cet adage qui dit que l'argent est un bon serviteur, mais qu'il est un bien mauvais maître. Alors on peut se dire, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça implique d'avoir Jésus pour maître plutôt que l'argent? Évidemment, ça implique beaucoup de choses, mais là, le focus, il est mis sur la question de cette opposition entre notre sécurité en Dieu et notre sécurité dans nos moyens financiers, finalement. Bien sûr, à la question « qui est notre maître ?», ben, si on est chrétien, on répond ben, « c'est Jésus ». Bien sûr, c'est Jésus. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut dire, hein, celui qui confesse de sa bouche sera sauvé, etc. Bon. Mais est-ce que c'est vrai dans les faits? Alors, je vais maintenant aborder un sujet qui est vraiment délicat. Il est délicat d'abord parce que je ne veux pas tomber dans la manipulation et ça serait très facile de le faire. Il est délicat ensuite parce qu'on pourrait me soupçonner d'avoir choisi ce texte pour aboutir à ce que je vais dire maintenant, ce qui est faux. En vrai, je l'ai choisi parce que la thématique de la peur du lendemain me semblait pertinente en cette veille de rentrée. Et finalement, c'est un sujet délicat parce qu'il est, malgré les apparences, puisqu'on parle d'argent, hautement spirituel. Et donc, il est de nature à éveiller de la résistance en nous de la part de l'ennemi. Ce sujet, le voici. Pour savoir quel Dieu nous servons, un bon élément de discernement, c'est l'usage que nous faisons de nos finances. Alors, je voudrais faire part d'une découverte que j'ai faite en arrivant dans ma petite église évangélique baptiste de Clermont-Ferrand, il y a 22 ans de ça, où je me suis converti. Je ne connaissais rien à l'église, j'y avais jamais mis les pieds, donc je découvrais tout ça. Et dans cette église, à chaque culte, il se faisait quelque chose qu'on ne fait pas ici, mais qui se fait dans plein d'églises, on faisait passer les paniers d'offrandes. Alors, quand les paniers passaient, moi, je grattais au fond de mes poches. En général, j'y trouvais 2-3 euros, je mettais ça dans le panier. Donc, si vous faites le calcul, je devais donner quelque chose comme 10-15 euros par mois en offrande à peu près. Et puis est arrivée l'Assemblée générale annuelle. Et là, j'ai découvert un truc que je n'imaginais pas. Pour moi, l'argent qui permettait à cette église, à cette communauté de vivre, venait probablement de la Fédération Baptiste, je supposais, qui était elle-même riche d'un argent venu de je ne sais où, et qui faisait que cette église vivait. Cet argent, il tombait un peu du ciel, quoi. Voilà, je ne savais pas trop d'où ça venait, mais en tout cas, c'était là et super. Voilà. À l'Assemblée générale, j'ai compris à la lecture des comptes, c'est pour ça que c'est intéressant de venir aux Assemblées générales. J'ai compris à la lecture des comptes que la totalité des ressources de l'Église venait de l'offrande du dimanche. Et là, j'ai repensé à mes 10 euros et je me suis dit, ça marche pas en fait. En fait, si tout le monde fait comme moi, ça, c'est pas possible. Ça peut pas marcher, cette affaire-là. Donc, j'ai fait un calcul vite fait par curiosité. J'ai pris le budget annuel, je l'ai divisé par le nombre de membres et je me suis dit, ils font pas tous comme moi. Visiblement, ils font pas tous comme moi. Et c'est un exercice intéressant pour prendre conscience de la réalité des choses, je trouve, et pour commencer de façon pratique et pragmatique, mais on verra qu'il y a un autre aspect. Là, je suis vraiment sur l'aspect très terre-à-terre. Et donc, de façon très terre-à-terre, voyons voir ce que ça donne ici, dans notre Église. En 2025, les recettes des offrandes ont été de 158 512 euros. Waouh ! Ça en fait de l'argent qui tombe du ciel, comme ça, on ne sait pas d'où. On était 137 membres. Alors évidemment, c'est artificiel. Il y a des membres qui donnent peut-être pas ou moins, il y a des non-membres qui donnent, etc. Mais bon, voilà, c'est pour avoir un ordre d'idée. Donc on fait le calcul, 158 512 divisé par 137, ça fait une moyenne annuelle de 1157 euros par membre, avec une moyenne mensuelle de 96 euros par membre. À ça, alors c'est déjà largement plus que mes 10 euros, mais 96 euros par membre. À ça, il faut ajouter ce qui est donné à l'ABEJE. J'en profite pour parler de l'ABEJE, parce qu'on a deux associations, association cultuelle, association culturelle. Ces deux associations forment ce qu'on pourrait appeler l'Église. L'ABEJE, c'est donc pour l'entraide et pour la jeunesse. Ensemble des recettes, 16 000 euros à peu près, 16 104. 95 membres, mais je suis taquin, je fais le calcul avec 137 membres parce que je veux croire que l'ensemble des membres de l'Église soutiennent la bêche d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'en achetant des diots quand on en vend, tout ça, voilà, ou des crêpes à la fin du culte, enfin ces trucs-là. Donc, je fais ce calcul et ça fait, je sais plus parce que je ne l'ai pas fait, donc le total. Si, alors, je me suis planté là-dedans. En tout cas, le total des deux réunis, ça fait qu'un membre moyen donne environ 106 euros par mois d'offrande au total. 106 euros, grosso modo, par mois. Donc ça, c'est pour le côté pratique et pragmatique. Ça permet de se situer un peu, chacun d'entre nous, où est-ce qu'on se trouve dans l'effort collectif pour faire vivre la réalité de cette communauté, parce qu'effectivement, il n'y a pas de subvention, ça ne descend pas de la Fédération Baptiste. Tout l'argent dont nous disposons, dont l'Église dispose, vient de nous, en fait, de ce qu'on donne le dimanche. Évidemment, certains donnent beaucoup plus, donnent beaucoup moins, en fonction des revenus des uns et des autres. Voilà. Bon. Maintenant, qu'est-ce que ça dit de notre cœur ? Donc là, je passe à un deuxième chapitre qui va nous élever à nouveau un peu. Là, on était vraiment au ras des pâquerettes, mais on va s'élever à nouveau. Dans l'Ancien Testament, Dieu a mis en place des lois pour éviter à son peuple de tomber dans l'idolâtrie de la possession matérielle. Et il y en a un paquet. Alors, je vais vous les lister à peu près. D'abord, vous avez le sabbat. Le sabbat, c'est ce fameux jour de repos qui est en lien direct avec la sortie d'Égypte, où le peuple travaillait sans relâche là-bas. Et Dieu dit, ben, maintenant que vous êtes sortis d'Égypte, dans le royaume, c'est pas comme ça que ça marche. Vous devez vous arrêter 24 heures. Le repos, l'arrêt de la productivité, c'est un commandement. Il nous rappelle que nous ne sommes pas Dieu, que la terre ne va pas s'arrêter de tourner parce que nous nous arrêtons de produire, que nous sommes des êtres finis, que Dieu seul est Dieu et que nous nous sommes des créatures limitées dans le temps et dans l'espace. On a besoin de se reposer, c'est vital, donc c'est un commandement. Ensuite, il y a cette histoire de la manne dans le désert. C'est intéressant. Cette manne qui tombait donc une fois par jour quand le peuple était erré, a erré pendant 40 ans dans le désert et qu'il devait ramasser chaque jour. Il ne pouvait rien mettre en réserve. Pourquoi ? Eh bien, pour que le peuple compte sur la providence de Dieu qu'il n'amasse pas tous les jours. Il y a aussi l'année sabbatique pour la terre. Donc là, c'était tous les 7 ans, il fallait laisser la terre une année tranquille pour ne pas la surexploiter. C'est une limite qui est posée à l'exploitation des sols. Il y avait le jubilé qui faisait que les terres, s'il y avait eu des terres de vendues dans l'année, etc., tous les 50 ans devaient revenir à leur famille d'origine. Pourquoi ? Parce que la terre appartient à l'Éternel. Tu n'es pas propriétaire de ta terre, ça appartient à Dieu. C'est un bon moyen de s'en rappeler. C'était comme ça. Il y avait la remise des dettes qui consistait tous les 7 ans à remettre sa dette à celui qui nous devait de l'argent pour ne pas maintenir un pauvre sous le joug de l'emprunt qu'il nous a fait. Et puis, il y a la dîme et les prémices. Et ces deux-là viennent directement toucher notre portefeuille direct ou notre tirelire si on est un peu plus jeune. D'abord, la dîme. L'idée, c'était qu'une partie de ce que le peuple produisait devait être mise à part pour Dieu. Ces dîmes, elles servaient essentiellement à soutenir les Lévites. Pour faire court, c'est moi le Lévite, ici. C'était la tribu en charge du service au temple. Elles servaient aussi à soutenir les étrangers, les veuves et les orphelins, c'est-à-dire les personnes en situation de fragilité. Et elles servaient aussi à fournir la viande et les céréales nécessaires à la célébration des fêtes de l'Éternel. C'est bien aussi, il y avait une partie de tout ça qui était consommée donc par les gens eux-mêmes lors des fêtes. Ensuite, il y avait les prémices. Les prémices, ce sont les premiers produits de la terre, au tout début de la récolte, qui étaient là encore mis à part pour Dieu. Dans la même logique, on pourrait parler aussi des premiers-nés du bétail, qui devaient être parfaits, sans défaut, et qui étaient aussi consacrés à Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu demandait ça ? Ben, je dirais il y a deux raisons. La première, c'est que les Lévites qui n'avaient pas eu de part au partage du patrimoine d'Israël avaient besoin d'être soutenus financièrement, tout comme le culte avec les fêtes, tout comme les plus fragiles de la société. Donc il y a un aspect pratique, pragmatique. Les gens ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Le culte a besoin d'être financé et les dîmes et les prémices sont là pour ça. Mais il y a aussi un enjeu spirituel. Les Israélites n'attendaient pas d'avoir tout récolté, tout mis à l'abri et tout sécuriser leur avenir pour donner ensuite à Dieu ce qui restait au fond de la poche, comme je le faisais moi. Tiens, hop, j'ai 2 euros, pouf, voilà, ça fera pour le temple. C'est pas comme ça qu'ils faisaient. Ils donnaient les premiers fruits. Les premiers fruits. Et en les apportant, ils disaient ceci, ils disaient « Voici les prémices des produits du sol que tu m'as donné, Seigneur. » C'est intéressant aussi, ça en lien de Deutéronome 26-10. « Voici les prémices des produits du sol que tu m'as donné, Seigneur. » C'est une manière de dire « Tout ce que j'ai vient de toi et je t'apporte la première part. » Les dîmes et les prémices, c'était donc aussi une manière pour Dieu d'apprendre à son peuple à ne pas faire de ses possessions sa sécurité ultime. Parce que finalement, quand vous donnez la première part, ben, comment vous allez terminer le mois ? Ben, on verra à la fin du mois, quoi. C'est la première part que vous avez donnée. Cette première part, elle ne sera pas pour le peuple, elle sera pour Dieu. Avec la dîme, le peuple reconnaissait que ce qu'il avait lui venait de Dieu, c'est un marqueur de dépendance du Seigneur, et avec les prémices, il donnait donc cette première part, d'une part parce que c'est la manière aussi de dire que c'est là la part de Dieu lui-même dans notre cœur, la première part, c'est pour lui, et d'autre part parce que c'est le signe de la confiance, de leur confiance dans le fait que Dieu va prendre soin d'eux bien plus sûrement que ne vont le faire leurs céréales et leur bétail. Alors maintenant, parlons peu, parlons bien. De quelle quantité exacte parle-t-on ? De quoi est-ce qu'on est en train de parler ? Alors là, si vous venez à l'église pour la première fois, vous vous dites « mais c'est quoi ce truc ?» Bon, laissez-moi une chance d'aller au bout, parce que là, on rentre dans le dur. On prend parfois la dîme pour repère. Dîme, ça veut dire le dixième, 10%. Alors si on s'en tenait à ça, je vais au bout. Si on s'en tenait à ça et si on considérait que les membres de l'Église donnent la dîme, ça voudrait dire que le salaire moyen parmi nous est de 1000 euros. Mais j'ai mieux. Attendez, j'ai mieux. La dîme, c'est un repère. Mais en réalité, c'est un repère inexact. Alors accrochez vos ceintures, là on décolle. Quand on se penche sur la question, on voit que selon la manière dont on articule les différentes dîmes prescrites dans la Torah, les Israélites en réalité consacraient à Dieu autour de 20%. Pouh, ça commence à faire là, hein, 20% de la production. Mais il y a mieux. À ça, il faut ajouter les prémices et les diverses offrandes dans l'année, les holocaustes pour le péché, tous les trucs. Enfin voilà, il faut amener un agneau à chaque fois qu'on a fait une bêtise, tous ces trucs-là. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi dans la Torah. Alors, une fois que j'ai dit ça, je dois ajouter autre chose, et c'est très important. Surtout, ne partez pas maintenant, en allant dire partout que le pasteur de cette église essaye de dépouiller sa communauté. 10% de nos revenus, c'est un point de repère facile, qui a une certaine pertinence, mais on doit être plus fin que ça. En fait, le Nouveau Testament dit les choses un peu autrement, et c'est, à mon sens, finalement même moins confortable, parce que là, c'était confortable, vous avez remarqué. Moins confortable parce que la loi, ça a un côté pratique. Si tu fais ça, c'est bien. Si tu fais pas ça, c'est pas bien. Voilà, c'est facile, on comprend. Tu donnes 20%, t'es dans les clous. Tu donnes moins, t'es pas dans les clous. Bon, ok. Sauf que Paul affirme de bien des manières et avec beaucoup de force, plein d'endroits, plein de fois, que nous ne sommes plus sous la loi. Ça veut dire d'emblée que ton salut n'est pas conditionné, évidemment, à ce que tu donnes ou à ce que tu ne donnes pas à l'offrande. Et ça, c'est quand même important de le rappeler. Le salut, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau, et il n'y a qu'un moyen de le recevoir, c'est la foi en Jésus-Christ. Point. Terminé. On est sous la grâce. Et la grâce, et c'est ça qui est inconfortable, je trouve, ne te dit pas combien tu dois donner. Elle ne te le dit pas. La grâce, elle te dit trois choses. La première, c'est que tout ce que tu as reçu, tu l'as reçu par grâce. Ça, on l'a déjà touché du doigt tout à l'heure. En réalité, rien de ce que tu possèdes ne t'appartient vraiment. Tout ce que tu possèdes t'a été confié par le Seigneur et ta manière de l'administrer dit quelque chose de là où se trouve ton cœur. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. J'ai une nouvelle moto qui est garée devant. Jugez-moi si vous voulez. Il n'y a aucun jugement, mais il y a cette réflexion de se dire, tiens, comment est-ce que j'administre les ressources que le Seigneur me donne ? Est-ce que je les administre bien ? Est-ce que je ne les administre pas bien ? Voilà. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Donc regarde comment tu dépenses ton argent et tu auras une idée de quel Dieu tu sers. Si ton offrande est faite sur la base de ce qu'il te reste à la fin du mois, ça dit quelque chose de la place que Dieu a dans ta vie. Parce qu'en réalité, il n'y a pas 10% pour Dieu et 90% pour toi. Il y a 100% qui appartiennent à Dieu et il y a toi qui dois administrer les talents au sens propre du terme. Pour le coup, les talents dans la Bible, c'est les sous, c'est l'argent. Les talents que Dieu t'a confiés pour les faire fructifier à son profit. Alors évidemment, excusez-moi pour l'expression, mais il ne te demande pas de crever la gueule ouverte dans l'exercice. Il ne te demande pas de mettre en danger ta famille, il ne te demande pas même de vivre comme un pauvre s'il t'a comblé de biens. Il y a des gens riches dans la Bible, Job était riche par exemple, voilà. Mais il te demande d'être un bon gestionnaire des biens qu'il te confie. En quoi ça consiste ? Eh bien, débrouille-toi devant ton Seigneur, prie, vois avec lui. Mais deuxièmement, la grâce te dit, et ça c'est peut-être aussi une manière de discerner, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. D'abord, arrête de t'inquiéter sans cesse pour le lendemain. Amasse-toi des trésors dans le ciel plutôt que sur la terre. investi dans le royaume plutôt que dans des choses qui vont périr. Et ça peut se faire de bien des manières. Il y a l'Église, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi des œuvres sociales chrétiennes. On en a un certain nombre représentées parmi nous. Il y a ce voisin, peut-être que tu connais, qui a besoin d'aide. Il y a cette formation qui t'aiderait, toi, à te former ton propre caractère chrétien. Et tu te dis, ben, je veux soutenir cette œuvre-là parce que moi, ça m'a fait du bien, donc je donne à mon tour. Bref, investis dans le royaume. Sois sage dans ta manière de gérer ton argent. Et fais-lui confiance pour le reste. Fais confiance à Dieu pour le reste. Et troisièmement, la grâce te dit, quand tu donnes, donne ce que tu as décidé dans ton cœur lorsque tu as reçu ton salaire. 1 Corinthiens 16, 2 dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, donc pas ce qui reste au fond de ta poche à la fin du mois, mais ce que tu as décidé en début de mois. Pourquoi la semaine et je dis le mois? Parce qu'à l'époque, ils étaient payés à la semaine, tout simplement. Donc nous, souvent, c'est plutôt le mois. Donc quand on reçoit son salaire, on se dit, bon, ok, je mets combien pour le Seigneur? Combien je donne à l'offrande ce mois-ci? Et je m'y tiens, je le donne. J'attends pas de voir à la fin si effectivement c'est passé ou c'est pas passé. C'est là que entre la question de la confiance en Dieu. Donne aussi selon tes moyens. Si Elon Musk ne donne que 10% de son salaire pour le royaume, c'est qu'il a des oursins dans les poches. Voilà. Par contre, Jésus met en avant l'offrande de la veuve, qui, elle, a donné de son essentiel. On ne sait pas. Est-ce qu'elle a donné 10%? Est-ce qu'elle a donné 5%? 1%? On ne sait pas. Mais on sait qu'elle a donné de son essentiel. Et Jésus dit d'elle qu'elle a donné bien plus que tous les riches qui sont passés par là. Donc, ce n'est pas une question de somme, ce n'est pas une question de montant, de est-ce que j'ai donné plus, est-ce que j'ai donné moins. Ce n'est pas ça. Si tu n'as pas les moyens de manger un repas par jour, s'il te plaît, ne donne pas 10%. Surtout, ne donne pas 10%, je dirais même. Par contre, si tu peux donner plus de 10%, eh bien, ma foi, fais-le, puisque tu le peux. Et enfin, dernier, alors ça, c'est aussi 1 Corinthiens 16,2 hein, qui le dit. Et finalement, 2 Corinthiens 9,7 nous dit de donner avec joie. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, donc c'est une décision du cœur, qu'il donne sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà pour les consignes qui nous sont données par le Nouveau Testament. J'arrive au terme de cette prédication et vous allez entendre tout à l'heure Pierre Raymond, qui va être dans ses petits souliers, je pense, après tout ce que je viens de partager, notre trésorier adjoint, qui va venir vous dire qu'on est loin d'atteindre la cible mensuelle financière qu'on s'était fixée en Assemblée Générale. Mais genre, vraiment très très loin en fait. Alors d'abord, croyez-moi s'il vous plaît, si je vous dis que je n'ai pas fait cette prédication pour cette raison-là. Il se trouve que j'avais décidé de prêcher sur ce texte avant qu'on ne parle de la situation financière de l'Église en conseil. Mais surtout, croyez-moi, parce que ça serait quand même très singulier, n'est-ce pas, de prêcher sur la confiance en Dieu pour le lendemain en vous disant « Ouh là là, au secours, on n'a plus de sous, faites quelque chose, s'il vous plaît, donnez ». Ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, par cohérence, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Le sujet de fond de cette prédication, ce n'est pas les finances de l'Église. Le sujet de fond, c'est « En qui places-tu ta confiance ?» C'est ça le sujet. Demain, certains parmi nous vont entrer dans une nouvelle classe, dans un nouveau collège, un nouveau lycée, ils vont aller à la fac, que sais-je, ou dans un nouveau boulot. Et en vrai, aucun de nous ne sait exactement ce que l'avenir nous réserve, ce que cette année nous réserve. Il va y avoir des surprises cette année, comme chaque année, il y a des surprises. Des bonnes surprises, des moins bonnes surprises. Jésus ne nous demande pas de tout assurer, de tout sécuriser. Il nous demande de choisir notre maître. Notre usage de l'argent, nos lieux d'investissement disent quelque chose à ce sujet, mais il y a plein d'autres choses qui disent des choses à ce sujet. C'est pour ça, en tout cas, au sujet de l'argent que Jésus met en avant, c'est pour ça que Dieu invite son peuple à lui consacrer la première partie de ses revenus. La quantité, elle est à définir devant Dieu, dans la prière, j'ai dit tout à l'heure, au moment où on reçoit notre revenu, et je me suis perdu dans mes notes. Au moment où on reçoit nos revenus, pas quand on arrive à la fin du mois, et ça, c'est en signe de la priorité qu'il est dans notre vie, et c'est aussi un signe de la confiance qu'on lui fait pour assurer notre subsistance pour le mois à venir. Ensuite, il s'agit de lui consacrer cette somme avec le cœur de celui qui sait qu'il investit là où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Et peut-être que comme moi, il y a 20 ans, tu t'étais jamais posé la question de ton rapport à l'argent, de ton offrande à l'église, de comment ça fonctionne ici, là, de comment on fonctionne dans cette église. Et aussi de tout ce que ça dit de ton rapport à Dieu. Peut-être que tu t'étais jamais posé la question. Bien, tu as aujourd'hui l'opportunité d'y réfléchir et peut-être de commencer à investir dans le royaume si tu ne l'as jamais fait, de le faire régulièrement si tu ne le faisais que ponctuellement et de poursuivre joyeusement si tu le faisais déjà. Je vais inviter l'équipe de louanges. En réponse à cette prédication, on va chanter un chant qui ne manque pas d'aplomb, je dois dire, après ce que je viens de partager, puisque ce chant dit, je ne sais pas comment on va le vivre en le chantant, mais on dit « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. » Vous avez compris que ce n'est pas un appel à ce que vous donniez toute votre solde à l'Église, ce n'est pas ça. Je ne vais pas refaire la prédication, je pense que c'était assez clair.